Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue pour ce 76e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Roger Hormière, coach d'entrepreneur à succès. Pendant des années, Roger a été à la recherche de la prochaine compétence à acquérir ou du prochain contact à établir. Sa carrière a été variée et riche en nouvelles expériences. Mais celle qui va le marquer tout particulièrement sera en tant que steward pour la compagnie Transafia, et c'est à ce moment précis que son voyage commence. Pendant 10 ans, il enchaîne les allers-retours entre Lyon et Paris, voyage à travers le monde, découvre de nouvelles personnes et joue de son sens du contact pour offrir une expérience toujours plus unique aux voyageurs. En 2018, Roger rêve d'un futur plus en phase avec lui. Il commence à se questionner et à se renseigner sur les métiers liés à l'humain. La profession de coach l'interroge. Est-ce que le coaching, ça marche ? Ça s'impose ensuite à lui comme une évidence. C'est en 2019 que Roger obtient la certification de coach certifié en neurosciences. Cette décision de devenir coach a été inspirée par son propre parcours de découverte de soi et son désir d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, Roger est le coach d'entrepreneurs à succès comme Caroline Receveur, Hugo Philippe, Cathy Closier du Season, Olivier Ramel de Kimono ou encore Louis Marty de Merci Andy. Comment a-t-il fait pour en arriver là? Quelle est son histoire? Comment a-t-il créé sa méthode? Dans cet épisode, vous allez tout savoir. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, @serialentrepreneur, où on a dépassé les 10 000 abonnés la semaine dernière. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et on se retrouve exceptionnellement ce vendredi pour un nouvel épisode. Salut Roger, comment tu vas ?
Très bien, merci François. Et toi ?
Très bien, très heureux de t'avoir dans le podcast. En plus, c'est très difficile d'avoir des infos sur toi, donc je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui pour discuter. Pour te présenter un peu rapidement, tu es un coach d'entrepreneur à succès. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de démarrer sur le parcours, c'est-à-dire de comment était justement le Roger petit. Est-ce que tu peux me parler un peu du début de ton parcours ?
Ouais, avec plaisir. Petit, enfant relativement turbulent, mais pas méchant. C'est-à-dire que j'avais un peu la bêtise, cherchais beaucoup les interactions humaines. J'ai un enfant qui a quand même un problème avec les émotions. Rapidement, j'ai compris que j'avais un problème avec les émotions, que j'avais du mal un peu peut-être à gérer ou que c'était un peu compliqué parfois à gérer certaines émotions. Et par contre, une vraie envie de découvrir l'humain très rapidement, dès la maternelle. Les interactions, c'était facile. J'arrivais facilement à comprendre comment les interactions fonctionnaient, même entre enfants et entre adultes. Donc, tout de suite, ça m'a un peu interpellé. Et j'ai passé beaucoup de temps à regarder comment ça se passait. Puis, l'adolescence est arrivée. Une adolescence un peu compliquée, si je suis totalement transparent, avec... échec scolaire total. Genre, pas vite fait. Genre, le bon échec scolaire compliqué qui va bien avec l'école, avec aucune appétence à vouloir être bon dans l'école. Les seuls moments que j'aimais bien, ça devait être c'était la récréation et la cantine. Le reste du temps, c'était pas et le sport. Donc échec scolaire très compliqué, redoublé plusieurs fois. En plus de ça, ça fait beaucoup en fait. J'ai eu la chance d'avoir un acné monstrueux qui m'a recouvert le corps, qui a fait qu'encore j'ai encore des cicatrices aujourd'hui un peu partout, qui a fait que j'ai été la tête de turc pendant de beaucoup de personnes pendant quasiment toute l'année du collège, de la sixième jusqu'à la troisième, plus les années supplémentaires que j'ai faites, qui m'a valu un bon moment de compliqué. sur cet aspect-là, puis après le lycée. Le breakdance est arrivé dans ma vie et a changé quand même pas mal de choses au niveau de la danse. Changé pas mal de choses dans ma perception, dans la façon d'agir avec mon corps. Puis plein d'événements un peu parental, un peu compliqués, socialement parlant, dans ma famille. Père violent, mère un peu, on va dire, qui se moue un peu dans cette façon d'interagir avec mon père qui était violent, qui elle aussi était un moment cool, mais qui a eu sa part de responsabilité dans un truc un peu étrange, psychologiquement parlant. Et après, une grosse tendance rapidement à dire que j'ai de la chance. Malgré tout ça, j'avais cette idée dans la tête, je sais pas pourquoi, qui tournait comme quoi j'étais quelqu'un de chanceux. J'ai de la chance. Je passais beaucoup de temps à dire que j'avais de la chance, alors que vu comme ça, raconté comme ça, on pourrait croire que non, mais j'avais ce truc de j'ai de la chance. Voilà, pour dire dans les grandes lignes, un peu se passer le parcours, on va dire.
Tu racontes un peu ta relation avec ton papa dans une conf assez incroyable, qu'on mettra le lien en description d'ailleurs, sur le dépassement de soi, comment trouver la motivation nécessaire. Comment est-ce que ça t'a forgé, on va dire, cette période où effectivement tout était très difficile? Tu parles de chance, mais effectivement quand on démarre comme ça, est-ce que c'est les bases, le socle de ce que t'es aujourd'hui?
Alors ce qui est très intéressant avec, entre guillemets, ce qui m'est arrivé, c'est que pendant tout le moment où ça arrivait, comme je me répétais quand même, j'avais de la chance, bizarrement. Je le vivais, c'était extrêmement dur à vivre. J'en parle avec mon frère, on est en ce moment ensemble, on en rediscute à chaque fois, il y a toujours ce petit mot, on se rappelle les histoires, et en fait, c'est un peu comme si on conscientisait à l'âge adulte un peu plus de choses qui nous étaient arrivées, mais c'était extrêmement violent. Je pense que tout était violent, c'était violent psychologiquement parlant, c'était violent physiquement parlant, c'était violent physiquement, publiquement parlant, devant nos amis, c'était constamment violent, en fait. Donc en fait, c'est comme c'était constamment violent et que c'était permanent et que c'était constamment là, en fait. Donc ça devient la réalité. effectivement, ça m'a construit, mais je pense que ça m'a beaucoup servi de le vivre sans en être totalement conscient. Que pour moi, c'était, je pensais que tout le monde vivait la même chose. Vraiment, je pensais que tout le monde disait, bon, tu rentrais, tu te faisais défoncer par tes parents, c'était tout le temps violent, c'était tout le temps à l'affût de, putain, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va, comment ça va se terminer, ce soir, est-ce que c'est ce soir, est-ce que c'est demain, c'était constamment comme ça. Donc, en fait, on t'apprend à vivre avec le fait que c'est ultra instable et que cette instabilité, elle est presque normale. Donc, je pense que, ouais, c'est un socle de se dire... Ouais, j'ai à apprendre à vivre avec l'instabilité de tout le monde, émotionnelle, ouais. Psychologique, avec l'école aussi derrière. Moi, tu dis, bah, en fait, même à l'école, ça se passe pas bien. Je dis, ouais, en fait, ça se passe jamais bien, en fait. Donc après, t'apprends à vivre avec, en fait, presque.
Oui, pour toi, ça devient une normalité, en fait. Il y a le côté innocence un peu de l'enfance, ouais. De l'adolescence, de dire, bon, ok, en fait, c'est normal, j'encaisse, quoi.
Ouais, et puis et comme j'étais chanceux et que j'étais vachement dans les relations humaines, mais en fait, dès qu'il y avait une relation humaine que je trouvais un peu cool, bah, je m'engouffrais dans cette relation humaine avec lui. J'étais le confident, je discutais beaucoup avec tout le monde, je prenais beaucoup de temps à essayer de comprendre, mais tout en étant à ma place, en observant, tiens, comment on arrive à intégrer un groupe d'amis quand t'es complètement rejeté par tout le monde et que tout le monde se fout de ta gueule H24, 24h sur 24, que j'ai même été élu le mec le plus moche de mon collège. Tu vois, genre, c'est cette fameuse... pas quasiment publiquement en plus, hein. Et en fait, tu arrives à te faire des potes, j'arrivais quand même à me faire des amis, j'avais un cercle d'amis aussi où on se voyait tout le temps, mais j'ai dit, en fait, c'est compliqué, mais à chaque fois il y avait une faille quelque part où moi je pouvais aller et de me dire, en fait c'est quand même faisable, on peut quand même faire quelque chose. Donc ouais, effectivement, je pense que ça a été un socle en disant, de toute façon c'est compliqué dans n'importe quel contexte, physiquement, mentalement, à la maison. Cherchons les opportunités dans ce contexte-là et allons-y à fond. Ça a été un super socle.
Qu'est-ce que tu fais comme étude après tout ça?
Lycée, alors viré de tout, alors collège compliqué, viré de tous mes lycées, tous, parce que sympathique, pas méchant, mais toutes les choses que je prenais, je les prenais, je séchais les cours, j'étais sympathique, mais j'étais quand même relativement chiant, pas forcément des les notes suffisantes pour continuer à avoir un parcours où les lycées te disent, vas-y, on te garde, dès que tu peux sortir, tu sors du parcours ou dans le cas du collège dans le lycée dans lequel j'étais. jusqu'à être dans un lycée privé en première STT à l'époque, où je me fais virer la seule année, la seule première où j'y étais. Puis après autre lycée. Et ça se passe pas bien non plus. Je me fais encore virer du lycée, mais jamais pour nuire, que dès qu'il y avait un moment de liberté à prendre, sécher, falsifier un mot pour dire que j'étais malade, genre je les ai tous pris. Qui m'a voilà eu un beau passé scolaire. Ou non, l'école c'était pas du tout fait pour moi. Ou short après le bac et que je n'ai pas eu à l'époque. Là commence une petite année de je rentre dans les clubs de vacances grâce à la danse, que j'étais danseur
de breakdance
qui m'a servi. Je rentre dans chorégraphe, dans des petites choses, et en fait finalement je me retrouve à directeur de structure à l'UCPA, où j'ai passé quand même pas mal d'années là-bas, relativement jeune. Mais non, scolairement parlant, mes profs se souviennent de moi et moi je me souviens d'eux aussi.
c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs finalement. Il y a pas de.
Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont pas cette rentrer dans le socle de l'école. C'est super intéressant. J'ai des enfants donc je vois qu'il y a quand même des bases non négligeables à avoir. Mais après je passe aussi beaucoup de temps à dire. Il y a aussi une autre solution après Bien l'école. Sûr. Et en plus, on est dans la bonne période où l'information, si tu veux y aller, l'information, on peut se former et se faire son éducation. C'est un peu ce que moi, j'ai fait à l'époque. Hein. J'ai pris l'endroit où je voulais aller. Après le lycée, les centres, pour entrer un peu dans la danse, j'ai fait un diplôme qui m'a permis d'avoir le bac à cette époque-là dans les sports de tourisme, la danse et tout, qui m'a fait hop, bon, step passé. Encore un autre moyen d'avoir le bac sans avoir le bac. Et je me suis engouffré là-dedans, et après ça m'a ouvert plein d'autres portes quand même. Donc il y a quand même un système autre que celui de l'école pour pouvoir obtenir ce qu'on veut et quand même passer les portes d'entrée encore une fois et rentrer dans un autre système. Donc non, le système scolaire, c'était compliqué.
Et après cette expérience de danse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu deviens steward directement?
Pas tout de suite. J'en parle très, très, très rarement. Je parle jamais de la danse. Et pourtant, c'est un truc qui a été ultra révélateur pour moi. Si je reviens sur le lycée, le collège, je commence à danser au collège. Et là, j'ai une reconnaissance des gens qui sont autour de moi. Ils font, putain, mais en fait, Roger, t'es bon dans la danse. Alors que pour de vrai, je ne suis pas du tout adapté à la danse à la base. Le mec n'est pas souple. Personne dans la danse, je connais rien. Par contre, je vois une porte d'entrée encore une fois. Et je m'engouffre dans le breakdance. Où les gens autour de moi disent « Tiens, Roger, il commence à être bon. » Et moi, je m'engouffre en mode genre « Je veux kill tout le monde dans le breakdance. » Donc, je deviens plutôt bon à un moment dans le break. Donc, il y a cette reconnaissance qui arrive. Et donc, je m'engouffre dedans. Et en fait, j'en fais mon identité de devenir danseur. Seul moyen un jour dans ma vie où on me dit « Roger, il est bon là-dedans. » Je m'engouffre et je lâche pas l'affaire et je passe beaucoup dedans. Et en fait, ça devient une de mes identités. Donc, je ne parle absolument jamais nulle part, mais ça fait vraiment partie de ma vie. Ça a été un élément déterminant de ma vie, le fait de faire du breakdance. Et je rentre là-dedans. Et en fait, à la fin, je base tout là-dessus. Je me dis, je suis danseur, j'aime bien la danse, je rentre bien le truc. Et je me dis, pourquoi pas devenir danseur? Et donc, je sors du système scolaire et on me propose un truc pour devenir, mettre la danse, aller dans les clubs de vacances, voyager. Je rentre là-dedans. Je m'engouffre dans cette brèche-là, encore une fois. Et là, je me laisse aller, je sais pas trop ce qui va se passer, je me dis allez go, feu, allons-y à fond. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, peut-être que je suis parti un peu trop loin dans...
Non mais c'est intéressant de revenir là-dessus, parce qu'effectivement finalement la danse ça t'a permis aussi un peu de t'assumer, tu vois, de vraiment de trouver, de prendre du plaisir sur un sujet en fait. Outre ouais. Que les études, etc., tu vois.
Ouais, et c'était ça, et les gens m'ont, bizarrement, hein, c'est pas bizarrement, mais reconnu comme étant quelqu'un de bon là-dedans. Et c'est une des rares fois où c'était unanime, autant mes potes, autant ma famille, autant même scolairement parlant, il y avait de la danse, il y avait l'UNSS danse. Tu peux être sûr que genre ça faisait Roger, allez. Donc j'avais une sorte de preuve de reconnaissance d'un seul coup. Je l'ai prise, ouais. Je l'ai prise à 1000%, et j'en ai fait ça a énormément participé à beaucoup de choses qui sont aujourd'hui que je ne cite jamais, mais qui sont le point de départ de beaucoup de choses. Ouais. C'est le breakdance, pour de vrai.
C'est un booster qui t'a permis de gagner en confiance, quoi.
De dingue, sur trop de sujets.
Et du coup, quand est-ce qu'on arrive à cette expérience de steward?
Je fais les clubs de vacances. qui, et là je me dis, je passe de je veux faire de la danse à, on me dit, bah si tu veux tu peux devenir animateur, animateur enfant, puis animateur adulte, puis directeur de colo, puis directeur de structure de plusieurs colos. Donc je suis très jeune, hein, à 19 ans, 20 ans, je suis vite dans ce truc là à prendre des, à vouloir prendre des impositions de directeur dans cette avec l'UCPA. Ça se passe super bien, et là je me dis, les vacances, c'est quand même pas l'UCPA, les clubs de vacances, c'est quand même pas ultra stable, parce que on change souvent. Tu fais 6 mois à un endroit, 6 mois à un autre, tu changes quasiment tous les 6 mois. Je vais faire un truc plus stable qui s'appelle devenir steward. Bah, je me suis quand même bien trompé. C'était pas beaucoup plus stable à l'époque, en tout cas, pour rentrer. Et en fait, c'était très compliqué. Je crois que c'était en 2009. 2008 j'ai l'idée, 2009 je passe le diplôme rapidement, parce qu'il faut un diplôme en France pour devenir steward. À l'époque il n'y avait aucune compagnie qui recrutait, aucune, genre c'était très 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 compliqué. Et j'ai la chance d'avoir une possibilité de rentrer chez Transavia, filiale du groupe Air France KLM, qui avait 2 ans à l'époque. Donc je suis dans la première année avec Transavia. Et ben en fait, c'était pas du tout ça. C'était le même système que les clubs de vacances. Tu faisais 3 mois, puis tu repartais, et 6 mois. Et en fait, pendant 2-3 ans, bah, t'es saisonnier dans une compagnie aérienne où tu bosses 6 mois de l'année, tu bosses pas les autres 6 mois. Donc c'était très compliqué. Et bah, bon endroit, bon moment, bonne compagnie, ils recrutent. CDI dans cette compagnie Transavia, qui était absolument géniale. Et là, l'aventure dans le milieu de l'aérien commence. J'habite à Lyon, mais je vais à Paris, donc je vis entre les deux, avec ma femme qui n'était pas ma femme à l'époque, aujourd'hui Nara. On n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants, donc je faisais les allers-retours, beaucoup comme ça pendant ce temps-là. Et là, l'aventure de l'aérien commence, mais c'était inespéré. Genre, tu m'aurais dit au collège, mec, tu vas travailler dans une compagnie aérienne. Jamais de ma vie, genre ça a été un succès dans ma vie, vraiment. Ça a été un, autant la danse ça a fait partie, autant Transavia, le fait d'être dans cette compagnie aérienne, ça a été un succès de vie monumental pour moi. C'était genre, on parle souvent du salariat, devenir salarié, mais moi, devenir salarié, d'être dans une compagnie, dans un endroit, contexte où t'as de la stabilité, où t'es, mais c'était comme devenir millionnaire, vraiment. C'était inespéré. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance à ce moment-là pour Transavia. Je ne fais pas de pub pour Transavia. Je n'ai pas d'ailleurs de lien d'affilié, de rien du tout. Mais beaucoup beaucoup d'amour pour Transavia, qui m'a apporté énormément de stabilité. Et pour moi, c'était un goal ultime. J'aurais jamais imaginé avoir ce contexte de vie 10 ans en arrière. Jamais. C'était inespéré.
Et puis pas n'importe quel job, quand même un job assez atypique. Et ouais. J'imagine qui permet aussi de pas mal de rencontres.
Ouais. Encore les rencontres. Ouais.
Est-ce que tu peux potentiellement me parler d'une ou deux rencontres
à Transavia. Alors, ce qui était génial, c'est que je passe d'un milieu, encore une fois, les rencontres, hein, toujours, il y a toujours l'humain, il y a toujours la connexion dans tout ce que je fais à chaque fois. Et bah, les clubs de vacances, on passe son temps à rencontrer du monde. Et là, je rentre dans un milieu de l'aérien où, en fait, les équipages changent tout le temps. Donc, en fait, on se fait plein de potes tout le temps, en fait. Les procédures restent les mêmes, mais les équipages changent tout le temps. Le pilote, les stewards, on passe jamais du temps avec les mêmes personnes à chaque fois. Et là, plein de rencontres, bah, je rencontre Mathias, on fait notre parcours d'intégration ensemble, on devient pote, c'est le parrain de ma fille aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément d'amour, qui m'a énormément apporté de stabilité dans cet écosystème de l'aérien, et des rencontres, il y en a plein, il y a plein de moments cool, il y a plein de moments, alors des rencontres, tu veux que je dise une rencontre, t'as une anecdote à me donner, non, que t'es allé pêcher quelque part et
après,
que tu me
dises. C'est en fonction de
non,
toi.
Bah, non, j'ai plein, Mathias qui est vraiment un coup de cœur amical, qui a apporté énormément dans mon aventure à Transavia, et avec son papa qui m'a aussi beaucoup aidé dans le poste pour devenir chef de cabine, parce que j'ai cherché aussi à grandir dans ce poste, parce que bah, on arrive au début, donc les possibilités sont aussi intéressantes, on peut devenir chef de cabine, puis on peut monter dans des postes de direction et de choses intéressantes. Et non, c'était en termes de rencontres, je pense que toutes les rencontres à Transavia, ah, il y en a quand même, il y a des rencontres qui te mettent mal à l'aise. Dans mon deuxième partie de parcours, où là, quand je veux devenir, je m'intéresse au coaching, où là, pour le coup, tous les gens qui étaient très sympathiques te regardent avec un œil bizarre et en disant, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux devenir entrepreneur, ou même pas, c'est même pas entrepreneur, c'est devenir coach, quelle est cette thématique-là, où là, pour le coup, C'est un milieu où ça parle aussi quand même beaucoup, comme toutes les grandes boîtes.
Ouais, on va en parler. Ouais.
Mais sinon, on en rencontre, ouais, j'aurais Mathias, j'aurais Abdel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à des moments où fallait que j'aille habiter chez eux, parce que j'ai des allers-retours. Mathias, Abdel, mes frères, qui ont aussi un rôle non négligeable dans mon aventure. Mais ouais, Transavia, aventure inespérée pour moi. C'est inespéré.
Cette expérience, elle dure 10 ans.
Ouais.
Comment est-ce que tu arrives justement au moment où tu t'intéresses au coaching et où tu te dis... Ok, moi j'ai envie de devenir coach.
Alors, très tôt, je me suis intéressé à j'avais découvert petit un livre sur les micro-expressions de mon père, que j'avais découvert presque par hasard dans la bibliothèque. Et j'avais découvert ce livre comme un code secret. C'est-à-dire des jeux vidéo, tu as tous les codes, tu peux avoir toutes les armes, tous les trucs. Et j'avais découvert ça, je me dis, mais en fait, quand tu regardes les gens et que tu les comprends, potentiellement, tu peux découvrir ce qu'eux imaginent ou pensent ou ont comme émotion. Et je m'amusais dans le secret, parce que si j'avais piqué le bouquin et que mon père l'avait vu, je me serais fait éclater. Donc je prenais ce bouquin, je m'amusais à faire des sourires sur les visages de quelqu'un de triste, quelqu'un de content. Donc j'ai eu ce truc-là. Et en fait, pour revenir à Transavia, je m'amusais à faire des tests un peu des trucs pour voir les gens, deviner quels gens, qu'est-ce que faisaient les gens comme travail, quel type de comportement. Donc je faisais beaucoup de tests. Et ce qui était cool, c'est que dans l'avion, vu que je parlais avec tout le monde, bah, je pouvais faire des suppositions. Et en même temps, ensuite, les vérifier derrière, un peu à la Fabien Olicard. Et c'était drôle parce que j'avais ce truc de, à force de m'intéresser à l'humain, d'essayer de comprendre plein de choses, bah, j'ai réussi à avoir une petite base de données un peu intéressante, à mon humble niveau, bien évidemment. Et l'humain, ça reste quand même, ça pop dans ma tête quand même. Et je me pose la question que beaucoup se sont posées, si j'avais pas besoin de travailler pour de l'argent, si tout l'argent m'avait permis de payer tout ce que je voulais à tout le monde, à ma femme, à mes frères, je ferais quoi de mes journées? Et la question, c'est, je pense que et même si j'étais prêt à payer pour faire quelque chose qui avait énormément de valeur pour moi, je payerais quoi? Et la réponse que je trouve relativement rapidement, c'est, je suis presque prêt à payer pour discuter avec des gens. C'est-à-dire, tu peux me donner tout ce que tu veux, tu m'isoles dans un endroit avec tout ce que je veux, la valeur, elle serait quand même dans la discussion et je serais presque prêt à payer si je devais payer pour avoir quelque chose, ce serait ça. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire dans lequel tu discutes et dans lequel tu apportes quelque chose? Et là, la compétence de coach arrive. Je n'y connaissais mais rien du tout. Mais rien. Rien, rien, rien. Donc, je découvre ce monde du coaching relativement étrange parce que dès qu'on commence à aller dans le milieu du coaching et qu'on se pose cette question et qu'on va chercher de l'info, on tombe très vite sur des comment devenir millionnaire, comment. Et j'ai fait, oh là là, je sais pas si je veux vraiment aller là-dedans, c'est pas trop ma cam, mais c'est la question qui me fait m'interpeller sur, ok, il y a autre chose que l'aviation que je peux faire, je peux aller plus loin que cette idée-là. Et au début, c'est juste pour devenir meilleur, pour un poste de manager chez Transavia, et en fait, je me rends compte que non, en fait. c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est pas vraiment là où j'ai envie d'aller, j'ai envie de devenir meilleur sur cet aspect-là, mais peut-être pas pour l'intention de départ, en tout cas l'intention que j'avais imaginée au départ.
Ouais, tu savais à ce moment-là qu'un switch était nécessaire, quoi.
Ouais, et puis encore une fois, genre, je me dis, tiens, opportunité, il y a moyen de faire un truc que tu kiffes, allons voir si c'est faisable, allons voir qu'est-ce que tu peux y trouver, vraiment de la curiosité, pas mal placé pour le coup, bien placé, curiosité bien placée en disant, bah écoute, de toute façon, il y a tout qui va bien, il n'y a rien, au pire c'est bien, au pire c'est pas bien, mais allons voir ce qui se passe dans le coaching, dans ce truc-là, et est-ce que pour de vrai ça fonctionne, genre est-ce que c'est pas un truc complètement perché, je dis, allons voir si ça fonctionne, vraiment, allons voir.
Ouais, puisque effectivement, il y a des coachs, on va dire, un peu bullshit, et il y a du vrai coaching qui impacte vraiment la personne, etc.
Ouais.
Et comment tu t'es formé
Alors, je me suis formé, j'ai fait basiquement une certification. Alors, je me suis spécialisé directement dans tout ce qui était les neurosciences, en tout cas sur l'aspect des neurosciences, parce qu'il y avait tellement, d'aspects... Il y a un monde quand même relativement large, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions sur le coaching, sur les émotions, il y a plein de trucs. Donc moi, je me dis, allez, quitte à prendre un axe, autant prendre l'axe des neurosciences, qui est un axe qui me semblait plus factuel, avec des trucs qu'on peut un minimum expliquer. Donc je m'étais dit, allons sur les neurosciences. Donc je me forme pour devenir coach certifié en neurosciences appliquées. Et je me forme là-dedans, ça dure une petite année. Il y a du présentiel et à ce moment-là, moi la formation, elle est là juste pour déjà me donner un bagage, pour poser des questions, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et me dire, bah, une fois que j'ai le bagage et que j'ai un minimum de socle, bah, de tenter de se dire, allez, feu, allons voir, maintenant que tu as un minimum, tu as les basiques, que tu es supervisé, que tu peux poser des questions, que tu peux expliquer en fait là comment on fait, où est-ce qu'on va. Je suis dans les bonnes conditions pour pratiquer et pas mettre moi en danger ou quelqu'un d'autre en danger. Là, ça ouvre les vannes. Et là, je me dis, allez, feu, là, faut que je coach, faut que je sache si le coaching, ça fonctionne. Ma seule et unique question, c'est de savoir est-ce que le coaching fonctionne. Pas devenir un bon coach, je veux juste savoir si ça fonctionne. Donc, je passe énormément de temps à coacher. Tous les trucs qu'il ne faut pas faire, je les fais. Genre, tu ne dois pas coacher les gens de ta famille, je coache les gens de ma famille. Tu ne dois pas coacher tes potes, je coache mes potes.
quand tu démarres, forcément, je pense que tu t'adresses à ton entourage proche.
Ouais.
Quand tu démarres, tu vois.
Et puis, je remets tout en question, en fait. On me dit, faut pas faire ça. Je dis, bah, pourquoi? Genre, c'est quoi la vraie raison à part il faut pas? Ouais, en termes d'éthique et tout, je fais ok, allons voir. Genre, je suis pas là pour mettre quelqu'un en danger. Je dis, si je vois que je rentre dans une position qui je sortirai, je saurai que c'est, je connaîtrai la raison de pourquoi sortir et pourquoi c'est pas entre guillemets sain de coacher quelqu'un de sa famille, c'est que bah, t'es pas coach avec ces gens-là. En fait, la réponse elle est simple, c'est tu n'es pas coach, tu es son copain, tu es son ami, tu es son mari, tu es sa femme. Ce rôle de coach, il est là maintenant tout de suite, il est pas nécessaire. Il appartient à rien, il donne possibilité à rien de mieux à part de l'écoute, d'avoir une prise de recul. Mais ça, le rôle de coach, je n'avais pas. Donc, je suis allé, j'ai fait non, allez, je vais véritablement vérifier si tout ce qu'on me dit c'est vrai. Qui est quand même énormément de choses où tu voilà, qui m'interpellait. Et j'ai coaché plein de gens juste pour voir si ça fonctionne. Mais vraiment, je crois la première année. 150 personnes, juste la première année, en plus de mon job de l'époque, parce que j'étais encore chez Transavia, donc j'ai fait ça en même temps.
En side, on va dire.
Ouais, j'étais à 100% Transavia, encore, à cette époque, quand j'ai commencé à me former, et j'étais en même temps à 100% dans ce truc de coach, où tous mes repos, c'était pour me former, tous les retours de vol, où je coachais des gens dans ma voiture, en uniforme, en train de discuter, là, là, là. Alors c'était, là, j'étais à 100% sur les deux. Juste pour savoir, est-ce que ça fonctionne pour de vrai?
C'est 150 personnes la première année, comment tu les touches?
Alors Facebook, basiquement, parce que j'avoue qu'au début, on rentre dans l'école, on te dit, bah là, maintenant il faut pratiquer. Je fais, ça tombe bien, je suis venu là pour ça, et je fais une annonce sur Facebook où je cible, à l'époque je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je crois que je cible les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau, et des thématiques un peu plus ou moins précises. Le life coaching, c'était pas l'endroit où j'avais véritablement envie d'aller. Donc je suis vraiment spécialisé en me disant les entrepreneurs, ça peut être cool, alors que j'avais aucune idée de ce que c'était. Les sportifs de haut niveau, j'ai été sportif, donc je m'étais dit ça peut être cool. Alors pas de haut niveau, mais j'ai passé beaucoup de temps dans le sport avec des sportifs, donc j'aimais bien. Et après, bah, tous les gens qui voulaient devenir meilleurs d'une manière spécifique. J'ai même eu des gens dans la restauration aussi à cette époque. Dans la restauration, bah, j'ai dit hop. Et là, naturellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des beaux profils qui sont arrivés rapidement. J'ai eu le leader d'une meilleure des teams de CrossFit de France à l'époque qui est arrivé en me disant, vas-y, je suis chaud, je suis partant. J'ai eu quelqu'un qui avait quelqu'un dans la restauration pour un profil comme ça. J'ai eu des autres sportifs dans l'haltérophilie, j'ai eu des gens trop cool qui sont arrivés. J'ai fait, c'est génial, c'est trop bien. J'en ai aussi des gens très, très chiants.
Partie du jeu.
J'ai fait, oulala, tu vois ça, je veux pas.
Ouais.
Où j'ai très vite écarté, j'ai dit, oh, non, c'est bon, je veux pas ce type de personnes. Il y a des gens qui sont meilleurs que pour moi, en plus, pour le coup, pour aider ces personnes. Et j'ai eu des profils très rapidement cool. Et après, le truc est vite arrivé en mode, bosse avec Roger, en ce moment c'est gratuit. Je faisais tout gratuitement, j'ai fait que du gratuit. Mais je voulais pas me faire payer, c'était même pire que ça. Je préfère faire que du gratuit que être payé un minimum qui... Non, j'ai gratuit, les gars, c'est moi qui paye. Je suis prêt à payer l'addition de tout le monde, mais moi je veux avoir ma réponse.
Ouais, tu voulais te tester à fond, quoi.
Ouais, j'ai dit, je veux aller au bout du truc. Je veux vraiment.
Et est-ce que au bout de cette première année, est-ce que tu as eu ta réponse à, est-ce que le coaching, ça marche?
Ouais, je l'ai eu rapidement. En fait, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai eu rapidement et j'ai eu que le coaching apportait quelque chose. Le questionnement, de manière générale, apporte quelque chose. Et j'ai aussi rapidement vu que j'avais envie de travailler avec un certain type de personnes. Les personnes qui étaient dans une position un peu plus... qui avaient plus besoin d'écoute que de mise en mouvement ou de mise en action... Ça me cassait les couilles. J'avais pas envie. On faisait un truc et on mettait un truc en place et on faisait quelque chose qui était intéressant. Si le lendemain, tu me disais, ouais, mais en fait, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je fais, ok, moi, ça m'intéresse pas. J'ai fait, ça fonctionne, mais ça fonctionne avec un certain type de personnes qui ont vraiment, vraiment envie d'avancer et qu'on souhaite d'avoir quelqu'un, d'un coach, hein, un entraîneur, en France, comme un coach sportif, où tu as des comptes à rendre, où à qui tu discutes et on crée quelque chose. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait et j'ai aussi rapidement compris que ça fonctionnait avec un certain type de personne pour moi. J'ai dit, oulala, j'ai compris deux choses en même temps. Accélérons sur cet aspect-là de gens qui ont faim, qui ont la dalle, qui veulent des résultats et qui sont prêts à se mettre en mouvement, même si c'est inconfortable. Ce qui était une des particularités, je pense, que j'ai aussi. Rapide, même dans l'inconfort, d'essayer d'avancer rapidement. Donc, j'ai vu qu'avec ce type de personne, ça marchait plutôt bien. Et pareil, là, je me suis engouffré.
Ouais, donc en fait, t'as trouvé rapidement ton persona, entre guillemets.
Ouais.
Vraiment, ta typologie de prospects, clients auxquels tu es capable de répondre, quoi.
Ouais, et alors, ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment un type de... une attitude plus qu'un client, ou un comportement. Parce qu'après, j'ai oscillé entre les sportifs et les entrepreneurs. J'avais les deux. C'était les deux personnalités qui me plaisaient le plus. Et pendant, je crois, pendant 6 mois, 1 an derrière, je me suis dit, je bosse avec qui ? Les entrepreneurs ou les sportifs ? Parce que les sportifs, j'adorais. Que les sportifs, c'est factuel. Genre, c'est si on débloquait quelque chose, émotionnellement, ou même dans la perception, ou dans une appréhension de quelque chose, ou pour le calmer, quelqu'un dans le rugby, que j'ai eu dans le rugby, où il était en limite en dépression. Il est revenu à cause d'une blessure, c'était dur physiquement à vivre et mentalement. Et quand on débloque ça, derrière, on passe sur comment t'appréhendes le fait de recevoir la balle, de la lancer et toutes les pensées. Donc il y avait un vrai truc, c'était génialissime. Par contre, moi, à ce moment-là, dans ma thématique, le sport, c'est quand même l'endroit où c'est difficile d'en vivre. Encore maintenant, c'est pas le gros délire, en tout cas dans ma partie, quand moi j'y étais. C'est un milieu qui est très fermé. La prépa, si tu viens pas du monde du sport, on te laisse pas trop ta chance, même si j'ai eu énormément de chance, j'ai bossé avec énormément de sportifs. Et je me dis entrepreneur ou sportif. Mon cœur, il a quand même failli glisser du côté des sportifs. J'en ai quelques-uns maintenant qui sont entrepreneurs, mais qui sont sportifs également en même temps. Et je me dis entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, bah, il y a moyen d'en vivre à un moment. En tout cas, il y a un aspect financier non négligeable chez les sportifs. Compliqué. Pardon, compliqué, c'est, y a pas de cash. Si t'es pas dans un sport mainstream, un peu comme le foot ou le rugby, c'est très, très, très difficile. Généralement, ils ont deux travails dans la majorité des cas. Et j'ai fait, allons sur le côté où t'aimes aussi passer du temps là-bas et tu peux apporter de la valeur et il se passe quelque chose et potentiellement lancer une aventure un peu plus entrepreneuriale sur cet aspect-là.
Mais ouais. C'est deux profils hyper similaires au final, les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs à succès, tu vois.
Ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... On pourrait justement lister un peu les similitudes.
Il y en a plein. Les représentations, le fait de se dépasser. La seule véritable différence que moi, je vois, c'est qu'un sportif, quand il n'y arrive pas, il se fait mal physiquement. Genre, ça fait mal. Genre, il se casse. Il peut se casser un poignet. Il peut se faire un genou. Il peut se faire un truc. Ça fait mal physiquement. Mmh. Alors que l'entrepreneur, ça fait mal...
Oui. Ouais.
Alors, ça fait mal psychologiquement et financièrement.
Et après, physiquement, potentiellement.
Et physiquement, pour plein d'autres sujets après derrière. Mais il y a les deux, ils sont extrêmement liés, sur plein d'aspects.
Comment ça se passe, la suite et comment tu arrives à créer ta méthode, en fait, tu vois
Comment ça se passe J'ai passé beaucoup de temps à avoir une sorte... Ce qui m'embêtait énormément avec le monde du coaching, c'est qu'il y a une sorte de schizophrénie. Les gens avec qui tu travailles, tu dois, entre guillemets, tu t'appropries pas leurs résultats. De ce truc de ouais, mais c'est leurs résultats, mais c'est pas tes résultats. Donc il y a un truc où c'est un peu bizarre. Je savais pas comment me positionner. C'est peut-être des gens à obtenir des résultats, mais ces résultats, c'est pas les tiens. Là-dessus, je suis totalement ok. Mais il y a un truc un peu schizophrène en tout cas pour moi, comme ça que je l'ai vécu, où tu dis, mais en fait, pour de vrai, si je suis pas là, il y a pas les mêmes résultats, mais si je suis là, ils auraient quand même eu. Je fais, les gars, quoi, ça sert à quoi de faire coach? Genre, pour de vrai, il n'y a aucune utilité à le faire. Donc moi, je me suis un peu réapproprié la façon de coacher. Donc je mets beaucoup de coaching, ma base principale, c'est le coaching. Et de par les expériences que j'ai avec les gens, je prends des postures qui sont différentes, soit du consulting, soit du mentoring, soit même du networking s'il faut à certains moments, où je crée ma façon de coacher, tout en étant ultra éthique. C'est-à-dire que je ne sors jamais de mon positionnement de coach, qui est un positionnement juste génialissime, de questionnement et de co-création sur, parfois sur certaines choses. Et de là, j'injecte des choses que moi, je vois avec d'autres entrepreneurs. Et la phrase que je dis très souvent, c'est, de toute façon, tout dépend du contexte, c'est un truc qui est basé. Et mon job, c'est de créer des contextes et que la personne derrière, elle choisisse. Et puis, je me suis spécialisé un peu plus dans les neurosciences décisionnelles, de comment mieux prendre une décision sur pas mal d'aspects. J'arrive à très vite appréhender le contexte d'un entrepreneur et que derrière, on arrive à co-construire quelque chose dans lequel j'ai une posture de coach et plus plein de petites choses que j'ajoute au fur et à mesure. Qui fait qu'il me permet d'avoir la super posture du coach, mais en même temps, plein d'autres postures aussi giga cool qui apportent de la valeur à l'accompagnement tout en étant ultra en retrait et on a accompagnement sur l'accompagnement quand même. Qui fait que je pense que j'ai trouvé ma meilleure façon de coacher sans le côté prendre recul, je fais partie de l'aventure, une sorte de rôle de co-founder, de gros co-founder avec tous les avantages d'un co-founder qui n'a pas de part dans ta boîte et qui va pas, mais qui est là pour te pousser et avancer. Donc j'ai trouvé ma façon de coacher que justement je suis en train de créer, peut-être que d'ici 2-3 ans je proposerai un truc justement bien spécialisé sur cet aspect là mais j'ai trouvé ma façon d'accompagner les entrepreneurs et les gens de manière générale sur un aspect perf.
Aujourd'hui t'es le coach d'entrepreneurs à succès comme Caroline Receveur, Hugo Philippe, Cathy Closier du Season, Louis de Merci Andy, pour les plus connus on va dire. comment est-ce que tu les as approchés ou est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Comment ça s'est passé en fait ce premier contact, tu vois?
Alors il y en a que c'est moi qui ai approché et aujourd'hui la balance s'inverse. On me contacte et des fois je ne connais pas les profils. Il y a des gens qui ont des succès de dingue. Moi, on me met en recommandation. On fait bah tiens Roger, je t'ai mis en contact avec. Très cool, file-lui un coup de main. Et pour de vrai, pas la plupart du temps aujourd'hui, mais il y a des fois je suis en contact avec des gens. Je sais.
Mais c'est peut-être mieux en fait, tu vois.
Ouais,
quand il faut leur mettre des claques, tu vois.
Ah ouais, non, mais là-dessus, j'ai aucun souci. On parle des vrais sujets, on parle des vrais trucs, mais il y a des moments, je me rappelle, il y a une personne qui m'avait contacté, je crois que j'ai mis plus de 6 mois à lui répondre. C'était un profil huge, de dingue. J'étais en mode, ouais, je sais pas, on discute, et après, je fais, ah, ok, on discute. Et là, je vois tout l'écosystème qu'il y a derrière. En mode, je me dis, ok, j'ai failli passer à côté de ça sans le savoir, je coach des gens qui ont envie d'avancer, mais je suis pas, genre, je les aime vraiment, je travaille qu'avec des gens que j'aime, je peux pas travailler avec quelqu'un que j'aime pas, même si il y a un succès complètement dingue derrière, je bosse qu'avec des gens que j'aime, c'est une condition que je garde et je garderai tout le temps. Et je suis pas fan des gens en fait, genre je suis pas fan d'eux, genre je suis fan de ce qu'on crée, de où est-ce qu'on va et de qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Mais j'ai pas ce truc de fan, je me dis pas genre, oh, complètement dingue. Par exemple, bosser avec Caro, c'est génialissime. Et je suis pas fan de Caro avant de travailler avec elle. Donc moi, j'ai un détachement par rapport à ça qui est genre, c'est factuel, on va tout casser, on va tout faire pour atteindre des trucs cool. Mais j'ai pas ce positionnement de je suis fan de toi, c'est-à-dire que je pourrais bosser avec n'importe qui.
Mais ça, c'est la base, tu vois, en fait.
Ouais.
Enfin, c'est aussi pour ça qu'ils bossent avec toi, parce qu'il n'y a pas de position de...
Ouais.
Tu vois, vous êtes au même niveau, en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est important quand tu coaches quelqu'un d'être au même niveau que la personne que tu coaches.
Finalement. Ouais, c'est exactement ça. Et ça apporte... et puis, on... Je suis des skills.
C'est aussi une relation de confiance, tu vois.
Ouais, de toute façon, c'est que là, c'est...
Et la confiance, tu peux pas être... Tu vois, tu peux pas avoir en face de toi un fan. Enfin, tu vois, la relation n'est pas la même du tout, donc...
Ouais, c'est impossible. Je pourrais pas. Genre, si Kylian Mbappé, tu regardes ce truc, Kylian Mbappé, on peut bosser ensemble. Genre, il est sur ma liste.
T'es pas fan de Mbappé, toi.
Alors, je suis fan de Mbappé, mais je sais qu'on peut faire un truc, on peut faire des trucs, on peut faire des trucs bien.
Comment est-ce que t'as fait pour lutter un peu contre, tu vois, le syndrome de l'imposteur? Parce que c'est un coach, effectivement, c'est justement un métier. Et en plus, ton aventure, elle est assez récente, finalement, en 2018, je crois.
Ouais, ça va vite. Au final, j'ai trouvé ça long, mais j'ai trouvé... En
fait, 4 ans, tu vois, ouais. Ressenti 15.
Ouais, c'est à peu près, à peu près ça.
Comment est-ce que tu as fait, tu vois, pour gagner en légitimité, pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de toi-même?
j'ai me suis basé que sur un seul truc. Si le coaching fonctionne et que ça apporte des résultats, qui est une croyance, hein, pour le coup, mais si ça fonctionne et si les gens ont des résultats, de toute façon, il se passera quelque chose. Donc, je suis pas allé sur la visibilité. J'ai quand même essayé de faire des choses en faisant des vidéos et tout, mais pour de vrai, la plupart du temps, c'était pas moi. Je me sentais pas à l'aise avec ce truc-là, justement, si on revient un peu sur le syndrome de l'imposteur. Mais j'ai tout ciblé sur, mec, si t'es bon, si t'apportes de la valeur, si on arrive à avoir des résultats, les choses vont progressivement arriver. Et je me suis basé que sur ça. J'ai dit, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir beaucoup de résultats? Faut coacher beaucoup de personnes. Faut que tu saches où est-ce que t'es bon, tu saches où est-ce que t'apportes de la valeur. Et que tu te bosses avec un certain type de personnes. Une fois que t'as trouvé là-dessus, genre, tu t'engouffres. Genre, tu y vas. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui peut se passer si les gens ont des résultats. Donc, j'ai bossé que aux résultats. Il y a des gens dont on ne saura jamais que je bosse avec eux. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est que du résultat. Et donc, ça veut dire que s'il y a des résultats, bah forcément, les gens parlent de toi pour ce qu'ils ont réussi à accomplir en travaillant avec toi dans les conditions. Donc, moi, je me suis focalisé que là-dessus. J'ai dit, le reste, c'est optionnel. Ce sera que la partie émergée de l'iceberg où ils diront, ah, là, ils bossent avec... Non, il y a plein d'endroits où on est focalisé que sur de la perf, atteindre du résultat, avancer, devenir, et je me suis focalisé, et encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, je me focalise que là-dessus. J'ai dit, il y a qu'un seul truc qui compte, c'est qu'est-ce qu'on arrive à atteindre en travaillant ensemble. Le reste, qu'on le sache pas, pour de vrai, je m'en tape. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste d'atteindre ce pourquoi on travaille ensemble, et généralement on l'atteint, et parfois même on va au-delà de ce truc-là. Donc tout de suite, derrière, les gens, ils disent, bah tiens, je connais Roger, vas-y, fais un call avec lui, juste discute. Et de là, les choses fonctionnent. Et quand t'es câblé résultat et pas que connexion,
bah, c'est important.
T'apportes quelque chose, t'apportes de la valeur aux gens, tout en étant à sa place, encore une fois. Mais ouais, je me suis focalisé que sur cet aspect résultat, apporter de la valeur. Ça paraît classique, hein, dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas eu beaucoup de points où je me suis focalisé, mais c'est de là uniquement.
Donc le remède contre le syndrome de l'imposteur, c'est les résultats. Et pour avoir des résultats, il faut faire. Donc au final, tu vois, c'est...
Mais le syndrome de l'imposteur, moi, je pense que c'est un truc qui est cool. Franchement, pour de vrai, je trouve ça...
Je pense que c'est cool et je pense qu'au final, on l'a tous. Ouais. Et c'est normal de l'avoir. Ouais. Ce serait pas normal de pas l'avoir, tu vois. Même si les gens qui l'ont pas doivent être très bien aussi, tu vois.
Je pense qu'ils l'appellent autrement. Ceux qui l'ont pas, ils disent j'ai peur.
Non, c'est clair.
Alors, syndrome de l'imposteur.
C'est traduit de différentes manières, en fait.
Ouais. Non, mais moi, syndrome de l'imposteur, je trouve ça cool. Mm. Ça me challenge. Ça me fait me dire, t'es bon ou pas? Bah, on va le savoir. Et en fait, je le prends comme une information en mode genre, est-ce que t'es véritablement un imposteur? Oui, non. T'as deux choix. Soit tu te fais croire que tu l'es pas et t'avances pas et tu grandis pas. Alors, tu dis, pour de vrai, est-ce que je le suis pas un peu là? Parce que des fois, on est syndrome de l'imposteur, veut juste dire que t'es un imposteur à un moment et tu l'es pour de vrai. Et est-ce que, en allant sur le sujet, en disant, ok, peut-être que là, je suis peut-être pas à 100% de ce que j'avais imaginé que j'étais, ou dans le résultat que j'imagine avoir, est-ce que je suis capable d'aller aux 100% qui vont me permettre de plus avoir cette sensation d'être un imposteur? Donc moi, je le prends comme un signal qui est intéressant de, est-ce que si t'arrives à aller au-delà de ça, en bossant, en allant chercher n'importe quoi, est-ce que tu l'as encore? Et là, ça devient intéressant parce qu'en fait, ça devient un signal de est-ce que je progresse ou est-ce que je le suis vraiment et je me retire. Et là, pour le coup, je vais véritablement sur l'endroit où je sais que je ne le suis pas. J'apporte énormément de valeur. Et en fait, c'est un indicateur de peut-être où est-ce que je mets la confiance, où est-ce que je peux mettre ma confiance pour me sentir archi-aligné et de me dire oui, il disparaît, entre guillemets, le syndrome de l'imposteur. Mais moi, je trouve que c'est un très bon signal de que quelqu'un est sain d'esprit.
Ouais, c'est clair. Je crois qu'on en a déjà parlé dans certains épisodes, le fait justement de se dire « Ok, je suis sain d'esprit, tu vois, est-ce que justement je me pose 1000 questions par rapport à ça ?» Mais bon, il ne faut pas que ces 1000 questions t'empêchent d'avancer, quoi.
Ouais, et puis il y en a qui ont syndrome de l'imposteur et qui sont des imposteurs, alors, vraiment.
Ah, ça c'est vrai.
Donc c'est un bon signal aussi pour l'entière.
On n'en parle pas, mais effectivement, non, c'est clair, il y a beaucoup d'imposteurs. C'est quoi un peu les objectifs futurs pour toi, en tant que coach, tout simplement?
En tant que coach, je continue à apporter énormément de valeur avec les entrepreneurs avec qui je travaille. Ça, ce serait le principal focus. Continuer à impacter un maximum de personnes avec qui je bosse. En tant qu'entrepreneur, bah, continuer. En fait, j'aime tellement coacher que pour de vrai, je pense que j'arrêterai pas de coacher. Genre, on m'a dit beaucoup, mec, tu pourrais vendre des formations et tout. Ça ne m'intéresse pas. vraiment, j'ai pas. Aujourd'hui, en tout cas, hein, je le dis aujourd'hui, mais je changerai d'avis, je m'autorise à changer d'avis. Mais j'aime trop coacher, en fait. J'aime trop passer du temps à essayer de co-construire avec des choses, avec les gens avec qui on bosse, avec qui je bosse. Ça me fait vraiment kiffer. Donc, je pense que le projet, c'est de coacher de plus en plus d'entrepreneurs, d'aider de plus en plus de gens à aller le plus loin possible dans ce qu'ils, eux, rêvent d'atteindre, parfois. En tout cas, rêvent de créer. Donc, ce serait la seule chose en tant que coach que je pourrais, coach entrepreneur, pour le coup, que je pourrais... j'arrive même pas à me défocus de ce truc-là, tellement j'aime ça.
Ça se voit, ça se voit que t'es animé par ça, tu vois.
Ouais. Donc,
je pense que je me fais pas de soucis sur le fait que tu vas...
Merci.
on passe à la partie bilan, avec quelques petites questions. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton aventure entrepreneuriale?
Le plus difficile, ça a été de faire quelque chose que tu aimes, que tu penses que tu vas aimer, et de pas avoir beaucoup de soutien de personne. Alors, de pas avoir d'un soutien un peu bizarre. Un soutien de tu quittes ton job où tu gagnes quand même relativement bien ta vie, t'es stable, c'est inespéré, c'est le loto de ta vie, quoi, c'est l'euro million de ta vie. Et mec, t'es en train de dire que non, en fait, tu vas pas garder ton ticket, tu vas aller gratter un autre ticket où t'es pas sûr de gagner. Alors que tout le monde dit autour de toi, mais t'es n'importe quoi, t'es fou, genre pourquoi tu fais ça? Et puis c'est un truc de merde, et puis c'est un truc de charlatan, et puis c'est un truc. Donc là, ça a été très compliqué, parce que même des gens qui t'aiment énormément, et c'est légitime de leur part, et je leur en veux pas. Je pense que même ça a été l'inverse, ça m'a fait beaucoup de bien. Bah, ils te disent reste là, genre c'est confortable, c'est intéressant. C'est même pas une question de salarié, c'est une question de... T'es dans un truc qui est ultra confortable, et les gens, ils ont peur pour toi. Donc, en fait, tu dois... T'as peur, toi aussi, et tu dois, en même temps, gérer leur peur à eux, qui est ultra bienveillante, dans la majorité des cas, et t'as peur à toi de faire quelque chose où t'es pas sûr d'y arriver, t'es pas sûr de gagner, t'es pas sûr de créer quoi que ce soit. Donc, je pense que, sur l'aventure entrepreneuriale, ce coup de passer de Stu à essayer de devenir entrepreneur... Et d'essayer déjà de te convaincre toi, et ensuite de rassurer les gens, et que les gens, ça a été compliqué, ça a été très compliqué dans cette partie-là. Et après, à part cette partie-là, peut-être que j'ai pas assez de recul, ou je le vois pas, mais c'est la partie, ça a été la partie. Celle de dire à ma femme que je quitte mon job pour lui dire, et qu'il me regarde et qu'il me fait « Est-ce que t'es sûr de toi ?» et que je lui réponds « Non ». J'ai dit « Non, la seule promesse que je peux pas te faire, c'est que ça va fonctionner. La seule promesse que je peux te faire, c'est que je vais tout faire pour y arriver. » Et je lui ai dit « Non, je n'y arriverai, je peux pas te promettre que je vais y arriver. Par contre, je peux te promettre que je vais tout faire, mais absolument tout faire pour y arriver. » Je trouve que j'ai fait ça, j'avais mon garçon qui avait 3 ans et demi. On venait d'apprendre un cred pour avoir un appart. Donc, je suis en mode tu es en train de tout casser là, peut-être. Tu es peut-être en train de tout casser. Et qui m'a dit, est-ce que tu es sûr de toi? Je fais, non, je suis pas sûr.
Toujours la transition compliquée, hein, de quitter son job, tu vois, surtout après 10 ans, mais même après un an, 2 ans.
Bah, tout
c'est toujours hyper compliqué. Et je pense que c'est pour les entrepreneurs qui ont été salariés avant, comme moi par exemple, tu vois, c'est toujours hyper difficile de franchir le cap. Tu vois.
Ouais, et être salarié, c'est quand même une super aventure. Hein, parce que y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Moi, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours fait ça. » Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Non. Mais le fait d'avoir été salarié t'apporte aussi, dans l'aventure entrepreneuriale, de la structure. Tu sais aussi comment il faut se comporter pour garder un salarié dans ton entreprise. Tu sais qu'est-ce que c'est aussi une vraie entreprise. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont toujours été entrepreneurs. Les phases de comment on onboard quelqu'un, les recrutements, les trucs comme ça, c'est genre ouais c'est simple, moi je fais pas comme... Non, il y a énormément de bases qui sont ultra saines dans le salariat, que les entrepreneurs devraient aussi devraient prendre en considération. De embaucher quelqu'un qui sort du salariat pour devenir entrepreneur, c'est quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui a la dalle, qui connaît l'entreprise, qui peut apporter énormément de valeur aux entrepreneurs. Et je déteste cette façon de voir l'entrepreneuriat comme une solution ultime à un problème global. Non, je connais aucune entreprise qui impacte le monde qui n'a pas de salariés. Sur le principe. Non, entrepreneur, c'est génial. Il nous faut des gens qui soient salariés. Il nous faut des super gens qui veulent rester dans cet écosystème salarié, parce qu'ils apportent énormément de valeur aux entreprises. Et tous les entrepreneurs que moi je connais qui deviennent de salariés et qui veulent devenir entrepreneurs et qu'on se profile d'entreprendre au lieu d'être entrepreneur sont des pépites que en tant qu'entrepreneur on doit emmener avec nous dans l'aventure et on veut pas que vous deveniez entrepreneur, on veut que vous restiez salarié, on veut vous garder, vous êtes des vraies pépites pour les entrepreneurs. Donc c'est le salariat, c'est quand même un truc qui est quand même cool.
Je suis totalement aligné. C'est vrai que dans les contenus reliés à l'entrepreneuriat, ouais, on voit souvent, tu vois, quitter la rat race, etc. Mais c'est vrai que le salariat, au final, je pense que dans peut-être mes 10 derniers invités, à chaque fois, ils ont eu une grosse expérience de salarié avant qui leur a apporté énormément en termes de rencontres, en termes d'apprentissage, etc. Donc, non, c'est clair, je suis complètement aligné avec
ça. Ça m'a trop aidé. Hein. Ça m'a aidé pour énormément de choses. Moi qui connaissais rien à l'entrepreneuriat, il y a plein de codes qu'on peut utiliser. Donc, vraiment cool le salariat, c'était vraiment cool.
Et ma dernière question pour cette partie, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ?
De quoi je suis le plus fier ? J'aurais pu dire mes enfants, ma famille, tout ça, genre le truc un peu qui est vrai. Mais égoïstement parlant, d'avoir essayé de continuer d'être curieux et d'essayer de voir de quoi je suis capable, même quand ça va bien. Je pense que ça aurait été le truc de dire, même quand ça va bien, de continuer à être curieux et de savoir qu'est-ce qui peut se passer derrière, ce serait ça.
Ouais, c'est une petite punch, ça, continuer d'être curieux même quand ça va bien.
Ouais, c'est vrai, je te la donne,
allez,
cadeau.
Allez, c'est gratuit. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur un peu les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a un peu marqué ton aventure, me parler un peu plus d'une rencontre, je sais qu'il y en a plein,
ouais,
mais est-ce que tu peux m'en citer une, tu vois ?
Une dans l'entrepreneuriat,
ouais.
Classique, Hugo Philippe. Genre coup de genre match ultime, alors que je ne connaissais pas à l'origine Hugo, je connaissais pas du tout Hugo, avec qui on a fait des trucs cool avec CPK et Cruel Pancake. On a fait une super aventure avec plein de choses, ça m'a apporté énormément de choses, de plein de choses. Ça a mis aussi un peu de lumière sur qui j'étais, alors que c'était pas forcément voulu à la base, c'était pas quelque chose que je recherchais. Mais franchement, je pense qu'il y a Hugo Philippe, coup de cœur sur énormément de choses, entrepreneuriales, amicales, sur plein de projets, sur plein de choses, sur vraiment, ce serait ça. Il y aurait Caro aussi, avec qui il y a énormément de sujets. Ouais, ce serait Caroline et Hugo. Ce serait alors,
c'est difficile d'en choisir.
Pas pour les mêmes raisons.
Là, tu vas tous me les citer. Là.
Pas pour les mêmes raisons, mais si je devais en citer qu'un seul, ouais, ce serait Hugo. Mm. Hugo, ouais.
Ok. C'est quoi un peu tes sources d'inspiration aujourd'hui ? Alors, l'inspiration, c'est quelque chose qui évolue au fil des mois, des années. Les gens, les sujets qui nous inspirent il y a un an, par exemple, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Totalement.
Et toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, tu vois ?
Qu'est-ce qui m'inspire ? Ce qui est rigolo, c'est que rien à l'entrepreneuriat aujourd'hui m'inspire.
Ouais, mais généralement, c'est ça aussi. Hein.
Il n'y a absolument rien. Je m'inspire beaucoup des réussites ou des avancées à des endroits qui n'ont absolument rien à voir avec mes domaines. L'humour, en ce moment, je suis beaucoup sur l'humour. Comment tu réussis ou comment ça fonctionne l'humour, où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui fonctionne dans l'humour. En fait, je vais piocher à des endroits où normalement je n'aurais rien à y faire, je ne devrais pas y être. Je vais être en train de réfléchir à des sas, des trucs. Non, je vais à un endroit où j'ai rien à y faire et j'ai tout à comprendre. Là, en ce moment, c'est l'humour. Parfois, ça va être l'histoire de Léonard de Vinci. J'ai passé quasiment 2 semaines à me dire, ok, c'est qui ce mec ? Comment il a fait pour en arriver là ? À m'enseigner. Mais sur des domaines qui n'ont absolument rien à voir historique. Ça fait un peu genre le mec là, ce que je veux dire. Mais
non, mais vraiment toujours de la curiosité finalement.
Ouais, mais sur des domaines où je me dis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec, par exemple, le foot ou avec l'humour. Le foot et l'humour. Là, comme ça, par exemple, tu te rends pas compte, mais d'essayer de me dire, ok, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à certains endroits. Et je m'inspire de ça et des gens qui n'ont, qui sont. On parlait tout à l'heure d'un ami, la John, que j'ai ce genre de réussite. Et moi, elle m'inspire de fou, en fait. C'est des une maman isolée avec son fils qui. Je la regarde et chaque fois je me dis ou un papa isolé, je suis en mode genre mec, genre si c'était moi là, je serais aussi bon là. c'est le genre de choses qui m'interpelle et je me dis, putain, genre, il y a des vraies réussites un peu partout. Et je regarde toujours en me disant, mec, il y a à apprendre un peu partout, autre que l'entrepreneuriat et autre sur des sujets un peu business, quoi.
Ouais.
Ce serait inspiré, en fait.
C'est quoi un peu les conseils que tu me donnerais? Alors, je sais qu'il faut un contexte.
Exactement, toute histoire de contexte, de perception et de représentation.
Mais tu vois, par exemple, on va contextualiser. Moi, je monte une agence de prod de vidéos et de podcasts. Mmh. Ces derniers mois, là. Quel serait le premier conseil, tu vois, que tu me donnerais?
Je poserais une question. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire quand tu fais ça?
Sur les vidéos et le podcast?
Ouais.
Rencontrer les gens.
Le conseil que j'aurais donné, c'est que fais la seule chose qui t'apporte le plus de kiff. Rencontre des gens. Et c'est le seul et unique chose. Quand tu comprends où tu mets de la valeur dans la façon de fonctionner, tu peux mettre tout dessus et bizarrement, les choses fonctionnent. Dès que tu restes à côté et que tu veux faire acheter du bon matos, acheter des bons trucs, valoriser quelque chose qui n'apporte pas plus de valeur, on se perd. C'est le problème des entrepreneurs, c'est qu'on met de la valeur parfois pas au bon endroit. Et la seule question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ce que tu fais? Et est-ce que si tu continues de le faire, et si tu ne faisais que ça, ça t'aurait quand même des résultats? Et là, si c'était rencontré, si tu fais de la prod et tu fais du contenu, je pense que tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est rencontrer du monde.
Très clair, mais de toute façon, c'est tout ce qui gravite autour du podcast depuis 2017, c'est la rencontre, hein. C'est le socle de tout, tu vois.
Donc feu à volonté là-dessus.
Yes, feu. Let's go. Et du coup, la dernière partie, c'est des petites questions un peu rapides. Après, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre quand même. Est-ce que tu as un livre à me conseiller?
Ah, un livre à te conseiller? Franchement, maintenant tout de suite, un des livres qui a été le début tout, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie, mais qui était la base. Et je pense que si vous l'avez pas lu, ce serait celui-ci, de le relire. Et j'adorerais écrire un livre de ce calibre-là un jour à la Dale Carnegie, genre simple, efficace. Tout est dit, un peu vieux maintenant dans le contexte, mais un livre comme ça, genre ce serait, j'adorerais. Ce serait presque utopique, mais Dale Carnegie.
Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
Un film ou une série à te conseiller? Je regarde pas très souvent, mais le film que j'aime bien, c'est Inception. Ce côté de tu sais jamais si vraiment t'es au bon endroit, au bon moment. J'ai adoré ce film-là. J'ai adoré.
Ta musique du moment, c'est quoi? Ce qui te booste?
J'écoute du rap, pas mal en ce moment. Ben PLG. Rappeur, faut suivre, il va faire un truc cool là dans quelques jours.
Je le mettrai dans ma playlist. Alors ma prochaine question, c'est dans la trame générique, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle? Mais vu que t'es coach, ce serait plutôt si tu pouvais coacher n'importe qui, ce serait qui, tu vois?
Avec qui j'aimerais bien bosser? J'aimerais bien bosser avec. Juste pour le kiff, juste pour rigoler, je peux en dire plusieurs ou un seul? Qu'un seul?
Non, tu peux en dire plusieurs.
Il y a Elon Musk, juste pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette tête? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est au niveau de... Est-ce qu'on est sur le génie à la Léonard de Vinci dans notre écosystème? Parce qu'on n'a quand même pas beaucoup des Léonard de Vinci, par exemple, quand on prend le cas. Ce serait juste pour découvrir, est-ce que c'est le plus grand scammer du monde ou est-ce que c'est le plus grand génie du monde? Des fois, on peut se poser la question. Et l'autre, ce serait... ce serait Jeff Bezos pour sa capacité à se mouvoir dans des contextes différents dans lesquels il y a normalement plus de place pour interagir et de se dire en fait je reste quand même compétitif et je suis bon alors qu'à la base je vends des livres et là je fais des vidéos et je suis à Roland Garros et
c'est clair,
le mec il arrive dans chaque contexte à apporter quelque chose où c'est à chaque fois il apporte de la valeur dans un truc où normalement tu t'y attends pas. Je pense que Netflix a beaucoup de soucis à se faire avec Jeff Bezos, mais on va voir leur capacité à rebondir, ils l'ont déjà prouvé, mais ouais, ce serait ces deux-là. Un pour savoir est-ce que, pour de vrai, on est mec sur le plus perché du monde, et l'autre pour se dire, mais comment t'apportes autant de valeur à un marché qui, normalement, là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à apporter.
Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode?
Les entrepreneurs que je te conseille. On avait parlé de un de mes potes d'enfance, John, qui a des barbeurs et qui a fait un truc sur Paris juste complètement dingue. Cathy qu'on voit ce soir, mais Cathy sur Paris, il y a pas mal de choses. J'essaie de voir qui d'autre. J'en ai plein. Hein. J'en ai plein qui pourraient être intéressants. Louis Marty et Olivier, ou Olivier Ramel. Louis Marty et Olivier Marie, qui sont, ils ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire, qui peuvent être extrêmement cool pour pas mal de personnes.
Et ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
C'est juste quelqu'un qui a envie d'entreprendre et de voir jusqu'où il peut aller.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et c'est quoi un peu ton mot de la fin pour le podcast?
Merci. C'était vraiment cool, c'était trop bien. Je fais pas beaucoup de podcasts, donc très content d'avoir partagé mon aventure des podcasts avec toi et merci.
Très, très content de t'avoir eu dans le podcast aujourd'hui, d'avoir discuté avec toi pendant cette petite heure. On mettra tous les bons liens en description, que ce soit l'épisode vidéo ou l'épisode audio. Et puis on se retrouve bientôt sur Ça et l'entrepreneur.
Merci.
Ciao.